chers collègues, c'est donc effectivement un plaisir pour moi que d'être devant vous pour vous présenter au nom de l'équipe de l'hôpital cardiologique du Haut-Lévêque une nouvelle thématique qui émerge depuis 2 ans maintenant en France, qui est les possibilités maintenant de traiter le rétrécissement valvulaire aortique par implantation de valves par voie percutanée, donc une approche qu'on pourrait dire mini-invasive. Et donc on va dresser rapidement un petit peu le profil de cette nouvelle stratégie. Donc vous savez bien que le rétrécissement aortique, pour ce qui concerne son traitement médicamenteux, les choses sont relativement simples à comprendre puisqu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de traitement médicamenteux du rétrécissement aortique. Et donc dans ce contexte, bien évidemment, à chaque fois que vous posez l'indication d'un traitement d'un patient qui présente un rétrécissement valvulaire aortique, la seule option a priori est celle de la chirurgie de remplacement valvulaire aortique. Alors il y a bien évidemment une exception à cette stratégie qui est de tout temps le refus du patient ou un patient qui a un rétrécissement aortique serré mais qui reste asymptomatique. Jusqu'à quelque temps, pour certains patients qui étaient à haut risque chirurgical, eh bien on pouvait proposer la valvuloplastie aortique au ballon. Mais vous le savez, malheureusement, cette stratégie offre de nombreuses déceptions puisque le rétrécissement aortique évolue à court terme, si bien que cette technique avait, à de très rares exceptions près, été pratiquement abandonnée. Et donc émerge maintenant, et la France peut un petit peu bomber le torse puisque c'est sous l'influence de 2 chercheurs français, une nouvelle stratégie de prise en charge de ces patients à haut risque chirurgical qui est l'implantation de valves aortiques par voie percutanée. Donc je le répète, la stratégie de première ligne c'est toujours le remplacement valvulaire aortique, mais à partir du moment où vous avez un patient à haut risque chirurgical dont votre attitude doit changer devant ces malades, et d'une attitude auparavant où on se disait qu'il n'y avait strictement aucune stratégie et qu'on ne devait pas laisser le patient évoluer pour lui-même malgré une très très forte altération de cette qualité de vie, vous devez maintenant voir ces malades sous un autre œil et vous dire que pour lui, il y a peut-être une solution et je vais vous montrer ce dont il s'agit. Alors ces patients sont sélectionnés. Le patient va toujours vers la chirurgie, sauf exception, et donc cette exception, c'est le haut risque chirurgical. Donc votre patient doit être symptomatique, c'est-à-dire dyspnée, engorgé fort, syncope, lipotymie, etc. Il doit avoir un haut risque chirurgical. Alors ce haut risque chirurgical se calcule de manière simple par des scores que vous avez facilement sur Internet. En tapant Euroscore sur Google, bien vous allez avoir des logiciels pour calculer, mais véritablement en 2 minutes, l'Euroscore de votre patient. Et si cet Euroscore logistique est supérieur à 20%, eh bien, vous pouvez vous poser la question de cette stratégie. Un autre score est le score STS. S'il est supérieur à 10%, eh bien, là aussi, ce patient est a priori éligible. L'autre élément, bien évidemment, c'est qu'il faut qu'il ait un rétrécissement aortique serré, ce qui se définit comme une surface valvulaire entre 0,8 et 1 cm². Il faut qu'il ait une espérance de vie raisonnable, disons supérieure à 1 an, bien évidemment en dehors de son pronostic carcinologique, donc on ne va pas implanter un patient, par exemple, qui a un cancer en phase terminale. Et, chose très importante, la décision relève d'un avis consensuel partagé notamment entre des cardiologues interventionnels et des chirurgiens. Nous sommes là véritablement dans une stratégie de traitement multidisciplinaire. Alors les contre-indications qui sont toutes relatives mais qu'on essaie tout de même de respecter, c'est une fraction d'éjection du ventricule gauche effondrée inférieure à 20%, bien évidemment un rétrécissement aortique non valvulaire, une masse intracardiaque qui bien évidemment pose des problèmes techniques, une coronaropathie non traitée mais on pourra la traiter avant par angioplastie, des déformations carotidiennes, des déformations thoraciques, pardon, des sténoses carotidiennes critiques qui devront être traitées préalablement, une endocardite évolutive, cela va de soi, une embolie pulmonaire, un AVC récent, myocardiopathie hypertrophique et également une contre-indication relative mais qui est en train un petit peu d'être levée, la présence d'une bioprothèse mitrale. Alors les contre-indications techniques, Donc le patient est éligible, mais techniquement la technique n'est pas applicable. Eh bien, c'est quand on veut passer par voie transfémorale, bien évidemment, c'est un athérome important des vaisseaux fémoraux iliaques, des sténosités des vaisseaux fémoraux iliaques, des vaisseaux trop petits, inférieurs à 7 mm, en réalité c'est plutôt 6,5 mm, parce qu'on utilise des dispositifs qui font 18 French en taille, donc c'est vraiment des gros tuyaux que l'on monte dans les artères, un pontage aorlio-bifémoral, et pour la voie translapicale que l'on verra tout à l'heure, un anévrisme calcifié du ventricule gauche. Alors, cette procédure est très encadrée et elle doit bénéficier d'un screening, d'une sélection très rigoureuse et très précise des malades, avec bien évidemment un bilan échocardiographique, des bilans angiographiques avec une aortographie, une coronarographie, des explorations vasculaires menées par des médecins radiologues spécialistes et spécifiquement formés à cette technique, avec scanner, angiographie sigmoïdienne, angiographie des carrefours aorto-iliaques et de la jonction iliofémorale, échodoppler des vaisseaux du cou, la fonction rénale est très importante, les explorations fonctionnelles respiratoires et bien évidemment une consultation anesthésique parce que bien souvent cette technique requiert tout de même une anesthésie générale. Alors nous avons actuellement deux dispositifs disponibles sur le marché. Une valve développée par la société Edwards et une valve développée par la société Medtronix. Alors vous le voyez, ce sont deux valves qui sont réalisées en péricarde, porcin pour la Corvalve, équin pour l'Edwards, et qui sont cousues à l'intérieur, on dit d'un stent, mais il vaudrait mieux dire d'une cage métallique. Ces deux valves, vous le voyez, se différencient fortement dans leur forme, mais également dans leur concept. La valve Edwards est sertie sur un ballon et elle est déployée lors du gonflage ou du gonflement du ballon lors de l'implantation, alors que le système Corvalve est auto-expansif. C'est un métal c'est du nitinol, un métal qui a une mémoire de forme, qui est très mou, très caoutchouteux lorsqu'on le plonge dans le froid. Et lorsque on le remet chez le patient à 37 degrés, il se déploie et devient très rigide. J'attire également votre attention sur le prix de ces dispositifs. Je parle du dispositif et non pas de la procédure. Il faudra bien évidemment rajouter des surcoûts. 18 000 euros la valve, ce qui est bien évidemment beaucoup plus cher qu'une valve chirurgicale. Alors la prothèse Sapiens offre la possibilité de deux approches, une voie transfémorale rétrograde et une voie transapicale, donc chirurgicale, apicale, avec une petite thoracotomie sous mammaire gauche de 4 à 5 cm. Alors, je vous prie de m'excuser pour la qualité des images. Les images sont magnifiques sur l'écran, mais je crois que le contraste est un petit peu déficient sur le grand écran. Donc, la première chose que l'on fait, bien évidemment, c'est une vérification des axes. Donc, on fait une angiographie sigmoïdienne pour bien voir la géométrie, l'orientation de l'aorte, le plan de l'anneau aortique que vous voyez ici. Et puis, bien évidemment, une opacification des axes iliofémoraux pour vérifier que l'on ne va pas avoir de blocage à la montée de la prothèse pour une approche transfémorale. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'image de gauche. La procédure commence toujours par une valvuloplastie au ballon. On commence à dilater la valve au ballon, comme dans l'ancien temps. Mais, bien évidemment, on ne s'arrête pas là. Ensuite, vous voyez le dispositif, hein, vous voyez au passage la taille du cathéter, c'est gros, ça fait 6 à 6,5 mm de diamètre, donc c'est une procédure très délicate à réaliser, particulièrement chez des patients âgés avec des artères calcifiées et tortueuses. Donc vous voyez ici une valve Edwards qui est positionnée à travers l'anneau aortique, j'espère que vous la voyez bien. Et puis ensuite, je vous ai expliqué que cette valve était montée sur un ballon et on gonfle le ballon pour déployer la valve. Bien évidemment, après, le ballon est dégonflé pour pouvoir être retiré. Vous remarquez également, je ne sais pas si je peux la renvoyer celle-ci, non mais le déploiement de la valve est fait lors d'une stimulation ventriculaire rapide à 160-180 battements par minute. Cela, c'est pour effondrer la pression systolique du ventricule gauche et pour éviter bien évidemment que quand on gonfle le ballon, la pression ventriculaire gauche nous éjecte et bien évidemment envoie la valve avant qu'elle soit déployée dans l'aorte ascendante. Et vous voyez maintenant sur l'image de droite la valve Edwards implantée au niveau de la valve aortique. Alors comme je vous l'ai dit, le concept de la Corvalve est très différent. Cette valve est insérée dans une gaine hein, pour être maintenue sertie. Et progressivement, ensuite, on sort la gaine, et je ne sais pas si vous le voyez, mais au fur et à mesure que l'on sort de la valve de la gaine, eh bien, cette valve se déploie jusqu'à être totalement larguée. Et vous voyez ici, maintenant, sur l'image de gauche, cette valve en train d'être larguée, et sur l'image de droite, la valve aortique Edwards totalement larguée, corvalve, pardon, totalement larguée et en place. Ouais. Alors, je vous l'ai dit également, il y a la possibilité chez les patients qui ont des accès fémoro-iliaques qui ne sont pas suffisamment accueillants pour monter la valve par cette voie, d'avoir une voie percutanée, une voie transapicale, pardon. Donc, vous le voyez ici, on fait un abord transapical par l'apex du ventricule gauche, on monte, comme tout à l'heure, un ballon à travers la valve aortique que l'on gonfle, et puis, une fois que l'anneau a été dilaté, eh bien, par l'apex, on monte la valve à travers l'anneau et on déploie cette valve aortique au niveau de l'anneau aortique, avant, bien évidemment, de vérifier son bon fonctionnement. Je vais laisser le deuxième, voilà. Et donc vous voyez une prothèse parfaitement en place, le gradient en général est à zéro, et vous pouvez observer que cette valve également ne fuit pas. Alors, quelle est notre expérience rapidement? Eh bien, nous avons implanté à l'hôpital cardiologique 70 patients, d'une moyenne d'âge de 82 ans. Il va de soi que quand on sélectionne des patients à haut risque, on tombe bien souvent sur des patients âgés, en majorité de sexe masculin, avec comme principaux facteurs de risque associés l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, le diabète et le tabagisme. Les patients, pour 90% d'entre eux, étaient en classe NYHA supérieure à 2, avec un euroscore logistique supérieur à 20% dans 62% des cas. En effet, dans certains cas, comme des thorax hostiles, des aortes porcelaines, donc des aortes très calcifiées, vous pouvez avoir une contre-indication chirurgicale alors que l'euroscore est bas. Hein. Et le STS était supérieur à 10% chez 90% des patients. Donc vous voyez que très largement, la voie la plus utilisée, 60% des cas, est la voie transfémorale. Dans 36% des cas, c'est une voie transapicale. Et on a fait quelques patients par voie sous-clavière. Alors les résultats immédiats, vous pouvez le voir, sont excellents, puisqu'on a une surface valvulaire post-implantation qui passe en moyenne de 0,7 à 2 cm², avec des gradients qui sont pratiquement annulés. Le gradient est pratiquement à zéro chez la totalité des patients. On voit que ces résultats sont pérennes dans le temps, puisque aussi bien à 6 mois qu'à 1 an, on a des surfaces valvulaires qui demeurent aux alentours de 2 cm², et vous voyez également que le gradient transvalvulaire se maintient à des valeurs ridicules tout au long du suivi. Au niveau de la qualité de vie des patients, on a également beaucoup de satisfaction, puisque vous voyez que la classe 3 et la classe 4 disparaissent totalement, et au bout d'un an, on a une majorité de patients qui sont en classe 1 ou en classe 2. Au niveau de la mortalité, j'ai oublié de citer ce chiffre, on a une mortalité à 1 mois qui est de l'ordre de 3%, et maintenant, avec un petit peu plus d'un an de suivi moyen, il faut reconnaître qu'on a une mortalité qui frise les 20%, mais patients de 82 ans en moyenne d'âge, avec des fractions d'éjection de l'ordre de 35-40%, multiples comorbidités, on est donc sur des populations qui ont un pronostic spontané de l'ordre de 60% de mortalité à un an, donc bien évidemment, on améliore grandement leur qualité de vie, et il est vraisemblable que l'on améliore également leur longévité, même si pour des patients de cet âge, ce n'est peut-être pas le critère absolu. Donc j'insisterai pour dire que c'est une approche multidisciplinaire qui associe des cardiologues interventionnels, des chirurgiens, des échographistes, des radiologues, des anesthésistes, tous spécifiquement formés à cette technique. Alors si vous vous posez des questions pour certains de vos malades, pour savoir s'ils seraient éligibles pour une telle stratégie, eh bien la stratégie pour vous est simple. Nous avons ouvert une consultation tous les lundis après-midi, spécifiquement dédiée à cette problématique, consultation multidisciplinaire qui est menée conjointement par un chirurgien, un échographiste et un cardiologue interventionnel. Vous téléphonez au secrétariat du professeur Roudot à l'hôpital cardiologique de Haut-l'Évêque et on pourra vous trouver une place pour voir le patient avant, bien évidemment, de faire un bilan de screening invasif. Il est toujours préférable de voir le patient, de lui expliquer la technique, de vérifier que les choses sont faisables avant de se lancer dans des examens coûteux et bien évidemment agressifs. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. L'insuffisance rénale n'est pas un critère d'inclusion, on arrive quand même à la gérer. C'est même souvent c'est souvent un critère d'inclusion parce qu'elle participe au calcul de l'euroscore. Et c'est vrai qu'on injecte en moyenne entre 150 ml et 200 ml d'iode lors de la procédure. Donc c'est vrai que la fonction rénale est un paramètre qui est délicat à gérer en post-procédure. Mais pour l'instant, nous n'avons pas eu à dialyser de patients après les implantations. L'ancienne valve est écrasée par le stent, la cage métallique qui porte la nouvelle. Donc elle est plaquée sur la paroi aortique et elle va se loger dans le sinus aortique.
Bonjour, donc moi je suis Laurie Aimable, je suis chef de clinique dans le service du professeur Douard. Et donc je vais vous parler de l'éducation thérapeutique chez le coronarien. Donc, qu'est-ce que c'est l'éducation thérapeutique? La définition donnée par l'OMS dit que l'éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Donc, c'est pas très précis, mais ça montre bien le but de cette éducation. Maintenant, elle apparaît dans les recommandations, elle apparaît dans l'HAS. Et elle fait vraiment partie intégrante de la prise en charge d'une maladie. Et donc, dans le cas de la réadaptation cardiaque, c'est aussi important que le réentraînement à l'effort. Alors, pourquoi c'est intéressant d'associer cette éducation thérapeutique? D'une part, elle est adaptée à chaque patient, elle permet d'améliorer les habitudes de vie, donc au rythme du patient, en fixant un ou des objectifs négociés avec le patient, donc il est vraiment acteur. L'objectif est d'atteindre progressivement et durablement un maximum de protection cardiovasculaire et enfin d'améliorer le pronostic en diminuant le taux d'événement, le taux de récidive d'événements cardiovasculaires et les hospitalisations, donc un bénéfice sur les coûts financiers. Alors l'éducation thérapeutique, c'est pas de l'information. L'information, c'est ce qu'on va délivrer la plupart du temps à la phase aiguë. C'est ce qu'on va délivrer très facilement en tant que médecin en disant il faut faire ceci, cela, mais c'est une attitude où le patient est passif, où il n'est pas forcément réceptif, donc on va donner des informations mais qui ne sont pas forcément adaptées à son mode de vie. Donc les ingrédients du changement s'appuient sur le vécu et c'est l'expérience antérieure. Dans l'éducation, le patient est acteur et c'est lui qui va gérer sa maladie chronique. Donc le changement n'est pas une prescription. Il va falloir évaluer la motivation du patient. La spirale du changement décrite par Prochaska dans les années 1982 est assez claire et pratique. Donc il va falloir situer le patient par rapport à sa motivation. Il y a plusieurs états. La pré-contemplation, donc le patient n'a jamais pensé à un éventuel changement, il ne se sent pas concerné. À droite, on a la traduction pratique, je ne sais pas, bon, ça ne me concerne pas. Ensuite, quand il rentre dans la spirale, il y a l'étape de contemplation. Donc l'individu considère sérieusement la possibilité de changer un comportement dans un avenir à court ou moyen terme, donc dans les 6 mois. Donc là, je sais, je dois, je commence à y penser, il va commencer à élaborer des stratégies. Ensuite, il y a la préparation. À cette étape, l'individu considère sérieusement à changer un comportement et il anticipe ces changements. Donc j'y pense et je vais le faire. Ensuite, il passe à l'action. Donc là, je fais. Il est actif, il change ses habitudes, il modifie son environnement, il s'adapte. Et il y a la phase de maintien. Je continue. Donc cette phase de maintien, c'est on poursuit les efforts. Ça peut durer 6 mois environ, plus ou moins. où il est encore dans cette étape de je garde ma motivation, je l'applique, je fais des efforts et je suis conscient que c'est un changement. Et alors là, ensuite, soit il y a le maintien, il n'y pense plus et c'est acquis. Il a changé son mode de vie, il apprécie, il n'y pense plus. C'est qu'à n'importe quel changement, hein, que ce soit la consommation tabagique, que ce soit alimentaire, que ce soit l'activité physique, enfin, n'importe. Hein. Et, ou bien c'est difficile et il rechute. C'est toujours possible à n'importe quelle étape. Et il recommence un nouveau cycle. Ce qui est important, c'est de ne pas le considérer comme un échec, puisqu'il a déjà les bénéfices de la première démarche, il a déjà acquis une expérience, il a déjà vu ses fragilités, il a déjà vu les difficultés, et pourra se servir de cette expérience pour renouveler une tentative qui pourra que lui être bénéfique. Voilà. Donc la démarche... Pour l'éducation thérapeutique, il va falloir convaincre le patient de s'engager dans un projet de soins à visée préventive et donc s'adapter à son niveau de motivation qu'on aura évalué. Donc dans toute démarche d'éducation thérapeutique, il y a 4 étapes. Il y a le diagnostic éducatif que je vais détailler. Ensuite, on élabore un projet avec des objectifs et on élabore un contrat négocié avec le patient. Ensuite, il y a la mise en pratique des techniques d'apprentissage. Et enfin, on évalue. On évalue le patient et on évalue le programme pour voir si on a pu apporter ce qu'il fallait et on s'évalue nous-mêmes. Donc, c'est vraiment l'éducation thérapeutique centrée sur le patient et coordonnée avec les différents partenaires pour essayer d'apporter les choses adaptées à chacun. Donc, le diagnostic éducatif, qu'est-ce que c'est ? C'est un entretien individuel, directif, explorant les dimensions et les potentialités du changement. Donc il va falloir essayer de savoir qui est ce patient, qui on a en face. Donc on va, c'est un entretien ouvert, mais directif, donc on va poser des questions ouvertes où le patient ne va pas répondre par oui ou non, mais on va le laisser parler. Et on va essayer de répondre aux questions, qu'est-ce qu'il a ? Bon, en général, on le sait avec le courrier médical. Il a fait un infarctus, nous on le sait, mais qu'est-ce qu'il sait, lui ? Qu'est-ce qu'il a compris ? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous avez compris ? Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, quelles sont ses ressources ? Quelles sont, comment il vit ? Comment il vit avec ça ? Et qu'est-ce qu'il croit ? Donc ça, c'est très important, c'est les représentations de la maladie qu'il a, les représentations. Donc, qu'est-ce qu'il associe à sa maladie ? Est-ce que c'est des représentations qui sont justes ? Ou bien non, parce qu'il va falloir partir de là pour l'amener à un changement efficace. Qu'est-ce qu'il ressent, donc le ressenti, le vécu, et ce dont il a envie, donc quels sont ses projets à court ou moyen terme. Voilà. Donc c'est un entretien qui peut durer assez longtemps, facilement une heure. L'attitude, ça peut être fait par un médecin, ça peut être fait par l'infirmière, la kiné, la diététicienne, un petit peu n'importe qui fait partie de l'équipe d'éducation thérapeutique. Il faut avoir une écoute active et empathique et pas hésiter à donc faire parler le patient, mais reformuler, repréciser, résumer, renforcer positivement, donc essayer de jouer sur la motivation, lui dire oui c'est bien et reformuler pour qu'il entende lui aussi ce qu'on a compris. Est-ce qu'on a bien compris ? Est-ce qu'on est juste ? Est-ce que finalement ce qu'il entend comme retour lui paraît finalement choquant ? Est-ce que déjà ça va lui faire comprendre certains leviers ? Voilà. Donc au terme de cet entretien, on fixe des objectifs, on les négocie avec ce que nous on a pu comprendre et puis ce que lui, quels sont ses objectifs à lui. Il est sûr que quelqu'un qui a tous les facteurs de risque, qui fume beaucoup, qui est obèse, qui est sédentaire, qui a un diabète mal équilibré et du cholestérol, bon, il va falloir négocier des objectifs qui sont accessibles, donc qui soient pertinents, qui soient précis, réalisables, observables, évaluables et les classer. Il ne va pas pouvoir tout faire en même temps. Donc il faut partager la décision, c'est une alliance thérapeutique et c'est comme ça qu'on va améliorer l'observance. Et donc, même si le patient nous semble avec des comportements erronés, faut vraiment comprendre que c'est lui qui va avec, c'est pas lui qui a tort, il pense différemment, il faut s'adapter à ça. Ensuite, il y a la mise en pratique de l'apprentissage en fonction de ses objectifs. Donc, le principe, c'est de ne pas tout déconstruire, mais de partir, de construire avec le patient, avec ses connaissances antérieures. Donc, et lui apporter des connaissances supplémentaires. Donc la mise en pratique, ça se fait la plupart du temps dans des séances collectives, des ateliers, avec des exposés interactifs, des groupes de parole, des études de cas. On utilise des supports comme des cartes, comme des vidéos éventuellement. Surtout, on fait participer le patient. En général, on les fait s'exprimer sur leurs connaissances, leur vécu, et à partir de là, on fait cheminer l'atelier avec des supports. Et on va faire créer des curiosités. Bon, il y a des situations qu'ils n'ont pas encore vécues, récidive de douleur thoracique, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, l'autre va apporter son expérience, est-ce qu'il a bien fait, mal fait. Donc vraiment, il y a une interactivité et il y a un lien qui se fait entre chaque patient. Et l'expérience des autres patients est bien largement aussi importante que l'information qui tombe par le médecin. Et en cas d'objectifs spécifiques, des séances individuelles qui sont avec la psychologue, avec la diététicienne, pour les diabétiques. Bon, voilà. Donc il y a trois niveaux de compétences dans l'apprentissage. Il y a le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Donc le savoir, ça veut dire comprendre le mécanisme de l'athérosclérose, c'est connaître les facteurs de risque, savoir identifier leurs propres facteurs de risque, citer les objectifs qu'ils ont fixés avec le médecin, citer les aliments riches en cholestérol, expliquer les effets bénéfiques de l'activité physique, repérer les signes d'alerte, connaître ses médicaments. Donc ça, c'est de la connaissance. Le savoir-faire, ça va être à partir de ces connaissances, savoir réaliser des menus équilibrés, savoir prendre son pouls, préparer et répartir son traitement, utiliser le traitement d'urgence en cas de douleur thoracique, donc quand j'utilise la trinitrine, comment je l'utilise, quels sont les effets de la trinitrine, est-ce que et puis faire le geste, évaluer le geste et faire les gestes qui sauvent, ça c'est en cas d'arrêt cardiaque, quand je suis le témoin, j'examine, j'appelle, je fais les premiers gestes, les premiers secours. Donc une petite initiation. Partant du principe qu'on va leur dire de faire de l'activité physique, ils vont éventuellement se mettre dans des groupes de phase 3 de réadaptation, donc faire du sport, être côtoyer des gens coronariens, s'il y a un arrêt cardiaque, avoir les bases. Enfin, le savoir-être. Le savoir-être, c'est planifier une activité physique adaptée. Une fois qu'on sait que lesquelles sont les bonnes, on sait comment faire, mais maintenant, il va falloir le faire, donc le planifier. Adapter son alimentation lorsque je sors, quand je vais à une fête. Quel plan d'action mis en œuvre quand il y a des signes d'alerte, gérer le stress. Le stress est un ressort très important. Voilà, donc toutes ces compétences sont vues en atelier. Et ensuite, on évalue, donc il faut évaluer chaque patient sur les connaissances apportées, leur compréhension, sur le geste, sur leur comportement. Et au terme du programme, valider et dire oui, c'est acquis, ou bien c'est en cours d'acquisition, ou bien c'est non acquis. Donc ça, il faut le transmettre au patient, qu'il soit conscient où il en est. Et puis le transmettre aussi aux médecins traitants, aux autres membres de partenaires qui le suivent, que ce soit une infirmière en réseau, que ce soit pour que l'éducation thérapeutique soit quelque chose qui perdure tout au long de la prise en charge d'une maladie chronique. Donc ça suppose un dossier éducatif dans le dossier de soins, un compte-rendu éducatif et une transmission pour que le patient continue dans ce chemin-là. Alors nous, en réadaptation cardiaque, le format se présente comme ça. En général, les patients ont fait un infarctus ou un syndrome coronarien, un événement aigu. On les voit à peu près à 3 semaines de cet événement, donc après 3 semaines de repos, on laisse cicatriser la nécrose. Et là, on les voit cliniquement, on les examine. Ils font une épreuve d'effort cardio-respiratoire pour évaluer leur performance, éliminer les risques pour l'activité physique. Et puis surtout, il y a ce diagnostic éducatif. À partir de là, il y a 20 séances en réadaptation cardiaque. à raison de 3 par semaine, donc ça dure 6 à 7 semaines, et on refait le point complet en fin de réadaptation, avec d'autres examens prévus, adaptés aux patients en fonction du risque, donc l'échographie cardiaque, le Holter, la biologie, voilà. Donc à chaque séance, les patients ont 30 minutes de gymnastique globale, donc c'est du renforcement musculaire, des étirements, du travail en résistance douce. Puis ils ont 30 minutes sur tapis ou vélo avec surveillance scopique. Donc c'est du travail dynamique, aérobie. L'objectif est d'améliorer la consommation d'oxygène et d'améliorer la balance sympathique, parasympathique. Et à chaque fois, ils ont soit une séance d'éducation thérapeutique, donc en atelier de groupe, soit une marche en extérieur ou de la relaxation. Les entretiens individuels se rajoutent en fonction des besoins. Donc les ateliers d'éducation thérapeutique, voilà les 10 qu'on propose, et on essaye d'avancer sur toutes les compétences que je vous ai exposées tout à l'heure. Voilà, je vous remercie. Moi, je vous ai montré le programme qu'on fait. Donc, c'est en place en réadaptation cardiaque. Donc, nous, on s'occupe de coronariens en post-infarctus. Donc, ils font la réadaptation en phase 3, c'est-à-dire post-infarctus à 3 à 4 semaines après. On associe ces ateliers. Donc, c'est tout à fait en place. Hein. C'est une population sélectionnée, c'est sûr, hein, la population en cardiologie. Il y a la même chose en diabétologie, c'est en place en diabétologie, sur le circuit pour le pied, pour la gestion du diabète. Il y a aussi le service du SEPTA chez le professeur Coufinal, où ils font de l'éducation thérapeutique chez les patients à haut risque. Vous en faites beaucoup aussi chez les vasculaires.
Toutes les disciplines s'y mettent, c'est-à-dire la néphrologie, les pneumologues, les BPCO, etc. Donc autant dans le système, je dirais, public que dans de nombreuses structures post-soins privés, etc., qui ont bien compris qu'il ne s'agissait pas que de faire, je dirais, de la remise en forme simple, quoi, et de la réadaptation après une maladie aiguë. Donc c'est au-delà. Donc il y a tout un mouvement de prise de conscience qui se fait.
Tous les centres de réadaptation cardiaque maintenant font de l'éducation thérapeutique. Hein. C'est devenu un critère de qualité, c'est devenu quelque chose d'obligatoire dans la prise en charge. C'est acquis, si vous voulez, maintenant ça s'est mis en place. Par contre, c'est nouveau, donc c'est sûr que ça nécessite une évaluation et un retour et un recul et puis une amélioration peut-être, mais c'est déjà en place. La diététicienne qui fait partie du programme, ça fait partie intégrante de la prise en charge, c'est très important. En général, il y a des diététiciennes, ils la voient à la phase aiguë, donc au moment de l'information, on va leur dire qu'il va falloir peut-être changer d'hygiène de vie. Donc il y a une première évaluation, ensuite il y a une autre évaluation à un mois ou deux pendant les séances. Donc une première expérience du patient, est-ce qu'il a été adhérent, est-ce qu'il a adhéré à ce qu'on lui a dit, est-ce qu'il a modifié des choses, où sont ses difficultés, donc toujours essayer de réévaluer. Et puis, comment va-t-il réagir, effectivement, en cas d'exception, en cas de soirée, hein, donc qu'il ait conscience que les écarts sont autorisés, si on a conscience que c'est des écarts et qu'il faut essayer de compenser. Mais il est sûr qu'on revient aux représentations du patient, ses croyances, et on ne va pas pouvoir changer du tout au tout, il va falloir respecter ça. Mais qu'il ait conscience de ça, quand même.
Bonjour à toutes et à tous. Jean-Benoît, tu peux faire passer. Je vais vous faire passer des cathéters d'ablation pour que vous pouvez comme ça manipuler un peu, voir à quoi ça correspond, voir avec quoi on travaille. Donc Jean-Benoît va en faire passer. Il y en a 4 là, donc vous pouvez les toucher pendant ma présentation, voir un peu comment ça marche. Donc oui, l'idée c'est de parler d'ablation et surtout qu'est-ce qu'une ablation, comment ça se déroule et pour qui. Alors, ce sont des techniques donc mini-invasives. Au départ, c'était comme souvent les chirurgiens qui avaient commencé dans les années 80. Et puis, le problème, c'est qu'il fallait ouvrir le thorax, tout ça, c'était compliqué, mais on n'avait pas les outils, nous, pour aller en endocavitaire. Et puis, petit à petit, avec les développements technologiques et les travaux, en particulier à Saint-André, du professeur Varin et de Michel Heisseger, il a été développé des techniques donc endocavitaires percutanées pour aller pouvoir traiter les troubles du rythme de façon moins invasive que la chirurgie. Donc ces procédures maintenant se passent sous anesthésie locale avec une sédation par benzodiazépine et donc on utilise des cathéters donc ceux qui sont en train de passer là et qu'on va rentrer par le pli de l'aine là, la veine ou l'artère, en fonction d'où on veut, dans quelle cavité on veut aller, et qu'on va manipuler. Et ces cathéters permettent d'enregistrer l'activité électrique du cœur, et ils sont reliés à un générateur de radiofréquence. Et lorsqu'on a une zone qu'on veut éliminer, ben on va envoyer un courant de radiofréquence au bout du cathéter qui va permettre de brûler localement, précisément, la zone qu'on veut éliminer. Alors une chose importante pour nous, c'est de pouvoir déclencher les arythmies quand les gens viennent, justement pour pouvoir identifier les zones importantes. Et ça, c'est un premier message. Pour la plupart des ablations, on a besoin que les gens arrêtent les antiarythmiques avant l'intervention pour qu'on justement puisse déclencher les arythmies et voir les zones critiques à traiter. Donc ça, c'est une petite image. Donc voilà comment ça se présente. Le bout de notre cathéter enregistre l'activité électrique. Oreillette, is, ventricule, peu importe, mais c'est ce genre de signaux électriques qu'on a et c'est là-dessus qu'on va se repérer avec l'écran de fluoroscopie qui permet de voir grossièrement où sont les cathéters, mais clairement la manipulation et l'information pour nous la plus importante sont les signaux électriques. Et là, vous voyez Michel là, qui manipule, donc on manipule au pli de l'aine et on s'aide donc de la fluoroscopie et de l'activité électrique locale enregistrée par le bout de nos sondes. Alors, je vais reprendre en revue différents troubles du rythme pour vous expliquer rapidement ce qu'on fait à ces patients et quelles sont les indications d'ablation dans ces pathologies. Alors, tout d'abord, le Wolff-Parkinson-White, c'est le faisceau accessoire. Donc, ça, c'est un cœur, bien sûr, oreillette, les deux oreillettes, là, les deux ventricules, et donc le nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau de His. Et donc les branches droite et gauche. Et donc le Wolff-Parkinson-White, c'est un petit bout de muscle, un résidu embryonnaire qui fait un pont, un court-circuit entre les oreillettes et les ventricules, là, qui est symbolisé par cette petite marque ici. Et donc le rythme normal, donc l'onde delta du Wolff-Parkinson-White, c'est une fusion entre le rythme qui descend par les voies normales et par la voie accessoire, et ça peut créer donc des tachycardies jonctionnelles, de véritables cliniquement bouvré, hein, et ça remonte, ça descend par les voies normales, et ça remonte par la voie accessoire, d'accord. Donc ça, c'est des crises à début et fin brutal, comme le bouvré classique, hein, vraiment, c'est cliniquement exactement la même chose, et ça peut être plus ou moins invalidant. Le risque dans le Wolff-Parkinson-White, c'est pas tant ça, c'est si le patient passe en fibrillation auriculaire, d'accord.
Vous voyez, ouais.
Quand même pas mal, ouais. Donc le risque du Wolff-Parkinson-White, c'est si le patient passe en fibrillation auriculaire, on a ce nœud auriculo-ventriculaire qui sert de filtre. Vous savez, il peut pas passer, l'influx ne peut pas passer à plus de 180-200 battements par minute en fonction de l'influx catécholergique ou de l'âge du patient ou de l'entraînement. Mais au moins, ça protège les ventricules d'un influx trop rapide. Parce que la fibrillation auriculaire dans les oreillettes, c'est 400, 500, 600 battements par minute. C'est très rapide. Vous imaginez bien que si l'influx se propageait à cette vitesse-là dans les ventricules, le ventricule ne serait pas capable de soutenir le rythme et on passe en fibrillation ventriculaire. Le problème de la voie accessoire, c'est quand il y a un passage, il n'y a pas de filtre. Et donc si ce petit bout de muscle est capable de conduire à des vitesses aussi élevées, eh bien, le risque, c'est de faire une fibrillation ventriculaire. D'accord. C'est l'exemple, là, c'est d'un petit jeune de 14 ans qu'on avait eu en thèse. Donc ça, c'est une fibrillation auriculaire sur Wolff-Parkinson-White, ici. Et le risque, c'est que ça se transforme en ça, d'accord, en vraie fibrillation. C'est vraiment la suite du tracé, hein. Donc, le Wolff, on les explore pour voir s'il y a ou pas ce risque, voir la conduction dans la voie accessoire. Et si c'est le cas, si on pense qu'il y a un risque ou si la personne est vraiment très symptomatique, alors ce qu'on fait, c'est qu'on monte des sondes dans le cœur et avec donc les sondes comme vous avez là entre les mains, on va les brûler, on va les repérer sur l'activité électrique de ce petit bout de muscle en plus, et on va aller la brûler pour l'éliminer, et donc après ça disparaît totalement, et on est vraiment dans des conditions physiologiques. C'est vraiment une zone très limitée, et quelque chose qui vraiment est très important, puisqu'après il n'y a plus besoin de traitement, et il n'y a plus de risque, le patient peut faire tout le sport qu'il veut, sans aucun problème, sans aucune limitation. Donc voilà pour le Wolff. Donc les indications d'ablation de ces Wolff-Parkinson-White, ce sont les Wolff-Parkinson-White dits malins, c'est-à-dire les Wolff qui sont capables de conduire très rapidement, et pour ça on a des critères, c'est-à-dire à l'épreuve d'effort, puis en exploration s'il faut. Bien sûr, les patients symptomatiques qui ont des crises très fréquentes ou qui ne veulent pas prendre de médicaments, et parfois pour les raisons professionnelles, en particulier les militaires, les sportifs de haut niveau, voire parfois les pompiers. Le risque, il est relativement faible, il dépend essentiellement de la localisation de la voie accessoire. Si la voie accessoire est à l'opposé comme ça, ben, il n'y a pas beaucoup de risques. Si par contre on a une voie accessoire qui est proche des voies normales, eh ben, le risque c'est de brûler les deux à la fois, quoi. Donc ça, après, c'est nous qui regardons où elle est précisément pour voir à quel niveau de risque on se situe. Fort heureusement, le plus souvent, ils sont à gauche, loin, et il n'y a pas tellement de problèmes pour les enlever. Donc, voilà pour les vols. Alors après, il y a ce qu'on appelle plus la tachycardie de Bouvray classique, qui sont en fait ce qu'on a, les réentrées intranodales, qui sont, des, encore une fois, des, cliniquement, ça se présente de la même façon, c'est-à-dire des crises à début et fin brutales, qui sont arrêtées par les manœuvres vagales. Généralement, il peut y avoir une crise polyurique post-critique. Et donc, c'est des crises qui tournent entre 160 et 220, 230 battements par minute, qui sont parfaitement bénignes. Il n'y a aucun risque vital. Hein, il n'y a pas de risque de dégénération en fibrillation ventriculaire ou autre. Simplement, ben, quand c'est rapide, c'est mal toléré. Et puis, parfois, ben, il faut aller aux urgences pour les arrêter quand le patient, malgré le fait qu'on lui a pris les manœuvres vagales, il n'arrive pas à les arrêter lui-même. Alors, bon, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça marche, mais on a une voie rapide et une voie lente, et en fait, on a une réentrée dans le nœud, d'accord ? Et donc, ça va tourner dans le nœud, et là, le but, ça va être de brûler une de ces deux voies qui arrivent au nœud auriculo-ventriculaire. Et donc, on va brûler la voie lente, et on amène nos cathéters ici pour brûler la voie lente, d'accord ? C'est ce qu'on fait, encore une fois, en se basant sur des critères électriques, pour pouvoir localiser précisément cette voie. Mais vous voyez que là, il y a un petit problème, enfin, un problème potentiel en tout cas, c'est qu'on n'est pas plus très loin des voies normales. Alors, on a fort heureusement, plusieurs années, l'expérience, c'est quelque chose d'assez fréquent, et on a des critères, et les risques d'abîmer les voies normales sont relativement faibles. Dans les séries, c'est de l'ordre de 0,5% de risque donc, de bloc auriculo-ventriculaire et donc de stimulateur cardiaque. Le patient doit bien sûr en être prévenu à l'avance, comme encore une fois, c'est un trouble du rythme bénin, qui peut être invalidant, mais bénin, le pronostic vital n'est pas en jeu, le patient doit être au courant, même si encore une fois, les risques sont plutôt de l'ordre de 0,1%, voire inférieurs, avec les outils actuels. Et donc, l'indication de l'ablation dans ces pathologies, ce sont les patients très symptomatiques, avec au moins une crise par mois, voire plus, ou au moins les patients qui n'arrivent jamais à arrêter les crises tout seuls et qui sont obligés d'être hospitalisés à chaque fois pour arrêter leur crise avec injection de striadine. Là, on peut comprendre que c'est invalidant et on peut aller faire ce genre de procédure. Donc le risque, c'est le bloc auriculo-ventriculaire, qui est quand même très faible. Et là, typiquement, c'est vraiment la pathologie où on a besoin d'arrêter les antiarythmiques avant, parce qu'on a vraiment besoin de déclencher les crises pendant la procédure pour bien être sûr qu'il s'agit de ça et pas d'une autre type de tachycardie. C'est vraiment là, on fait la preuve pendant la procédure. Alors, une autre arythmie, le flutter atrial, l'aspect en dents de scie ou en toit d'usine, d'accord, typique. Donc là, c'est une macro-réentrée, c'est un circuit qui tourne dans l'oreillette droite, d'accord, le plus souvent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc le flutter anti-horaire. Voilà, donc c'est un circuit qui tourne. Donc ben là, c'est relativement simple, c'est qu'on va aller faire une ligne. Donc ça, c'est une image chez l'animal. Hein. Donc ça, c'est la valve tricuspide en bas et les cathéters que vous avez dans les mains. Et donc, on va brûler. Alors là, on ne brûle pas en l'occurrence, mais c'est pour vous montrer le chemin. Et on va faire une ligne comme ça pour casser ce circuit et empêcher que l'influx électrique puisse tourner. Donc, je n'ai plus la slide, mais juste, on va de là à là, à la veine cave inférieure. Donc, l'isthme entre la veine cave et l'anneau tricuspide. Donc, on fait une ligne entre la valve tricuspide et la veine cave inférieure. On va faire une petite brûlure et on casse ce circuit et donc le patient n'aura plus de flutter. Voilà, donc les indications sont relativement larges en présence d'un flutter commun. Et la seule chose qui nous limiterait à faire juste l'ablation du flutter commun, c'est s'il y avait une fois du flutter commun mais beaucoup de fibrillation auriculaire. Puisque souvent, c'est des pathologies qui peuvent être intriquées. Et clairement, si le patient a plus de fibrillation que le flutter, ben, en lui ablatant juste son flutter, on ne l'aidera pas beaucoup parce qu'il fera de la fibrillation par la suite. Ça n'empêchera pas les épisodes de fibrillation. La seule chose, c'est qu'assez souvent, les flutters sont moins bien tolérés que la fibrillation auriculaire parce que parfois plus difficile à ralentir. Donc, bon, si c'est mal toléré également, on va aller facilement à l'ablation de ce flotteur, car les risques sont relativement faibles, si ce n'est local au point de ponction, mais on ponctionne que les veines, donc les risques sont vraiment très très faibles. Alors, la fibrillation auriculaire, on va passer un tout petit peu plus de temps, parce que là, c'est un petit peu plus compliqué. Fibrillation auriculaire, arythmie la plus fréquente. Donc, c'est le chaos dans les oreillettes, d'accord ? On a une conduction anarchique. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est Michel Leisseger qui est à l'origine de ça, c'est qu'il a montré que l'origine, le démarrage de cette fibrillation atriale venait le plus souvent des veines pulmonaires. Donc on a quatre veines pulmonaires qui viennent se jeter dans l'oreillette gauche, et en isolant ces veines pulmonaires, on pouvait empêcher le démarrage de ces fibrillations auriculaires. Et ça c'est particulièrement vrai dans les fibrillations auriculaires paroxystiques. Par contre, c'est un peu moins vrai dans les fibrillations auriculaires persistantes ou permanentes. Donc, le but de l'ablation, si j'arrive à passer ça, voilà. Le but de l'ablation, ça va être d'isoler ces veines pulmonaires. Donc, ça, c'est des images IRM, une reconstruction donc de l'oreillette gauche, donc avec les veines. Là, c'est la face. On arrive sur la face postérieure avec les. Avec les veines pulmonaires, et ça c'est la vue interne. Donc on a l'auricule gauche, là les veines pulmonaires gauche, les veines pulmonaires droite, et donc l'idée c'est qu'avec nos sondes on va les monter par les veines dans l'oreillette droite, puis passer à travers le septum. On va faire une ponction transseptale et on va aller dans l'oreillette gauche pour aller isoler, brûler autour de ces veines, pour les isoler électriquement et que les foyers qui sont à l'intérieur ne puisse pas lui déclencher la fibrillation atriale. Alors ça marche très bien dans les fibrillations auriculaires paroxystiques, et particulièrement celles qui durent quelques heures. Les candidats idéaux pour cette technique, c'est des gens qui vont avoir beaucoup de crises, mais jamais plus de 24 heures. Ces patients-là ont les résultats les meilleurs, et avec juste une isolation des veines, ça suffit. Les patients qui ont des fibrillations auriculaires plus longues, il faut faire d'autres lésions dans l'oreillette gauche, puisqu'il n'y a pas que ces veines pulmonaires qui sont à l'origine des fibrillations, et on peut faire des lignes entre les veines pulmonaires, entre la valve et les veines pulmonaires. Enfin, après ça, c'est de la cuisine, mais c'est des interventions, quand il commence à falloir faire des choses en plus de ça, des interventions qui vont être de plus en plus longues, avec un peu plus de risques, et dans les fibrillations auriculaires persistantes et permanentes, des interventions longues et avec plus de risques et des succès un peu moins bons que les fibrillations vraiment paroxystiques. Donc voilà une autre image, ce que je vous disais. Donc on monte par la veine cave inférieure, on ponctionne le septum, donc on passe à travers le septum, on fait un trou à travers le septum, et on va mettre des sondes. Alors ça c'est le lasso, il y en a un, c'est juste pour recueillir au niveau de la veine pulmonaire. Et vous voyez en fait ce qui donne la fibrillation, c'est qu'il y a des extensions de l'oreillette, parce que la veine elle-même c'est électriquement neutre. Enfin une veine n'est pas capable de faire de l'électricité, d'accord, il n'y a pas de muscle. Et en fait, il y a des extensions de l'oreillette gauche, des ramifications dans ces veines, et les étirements, puisque le cœur contracte et il y a les poumons de l'autre côté, les étirements, au bout d'un certain temps, peuvent créer des zones qui vont être électriquement actives et surtout des foyers qui vont pouvoir déclencher ces fibrillations auriculaires. Et donc, le but, ça va être d'éliminer tout ça, quoi. Alors voilà, pareil, c'est la même chose avec les petits dessins, et on va les brûler tout autour de ces veines pour les isoler. Alors, les recommandations, alors ça c'est toujours des diapos un peu ennuyeuses et rébarbatives. Simplement, pour vous montrer, donc c'est 2010, c'est les recommandations de la Société européenne de cardiologie 2010. Chez les gens qui n'ont pas de cardiopathie, donc des cœurs sains, qui font de la fibrillation, on parle bien sûr des gens qui sont en fibrillation auriculaire symptomatique. Des gens qui ont un cœur strictement normal et qui ne ressentent pas leur fibrillation, il faut éventuellement leur donner des anticoagulants s'ils ont un score de CHADS élevé, mais il n'est pas forcément nécessaire de traiter la fibrillation par elle-même s'ils sont parfaitement asymptomatiques et qu'ils n'ont aucun retentissement. D'accord, hein. Il y a une étude affirme qui montre que contrôler la fréquence, c'est-à-dire que la fibrillation ne soit pas plus rapide ou maintenir le rythme, n'était probablement pas différent en termes de survie. Donc là, on s'adresse vraiment aux gens qui sont gênés par leur fibrillation ou qui ont un retentissement de la fibrillation avec une altération de la fonction ventriculaire gauche ou des symptômes vraiment invalidants avec une restriction de l'activité physique, une dyspnée d'effort. Donc chez les gens qui n'ont pas de cardiopathie, qui ont des fibrillations auriculaires dites paroxystiques, il faut essayer un traitement, mais pas forcément, et pas la cordarone, c'est-à-dire un antiarythmique de classe 1C, Sotalol ou Dronedarone. La Dronedarone a une place dans les dernières recommandations énormes, alors que, bon, avec les événements de ces derniers mois, elle a été mise un peu plus sur le reculoir. Mais après échec d'un antiarythmique, chez les gens, encore une fois, très symptomatiques, on peut envisager l'ablation de la fibrillation auriculaire. Chez les gens qui ont des fibrillations auriculaires persistantes, il faut probablement aussi essayer la cordarone avant d'arriver à l'ablation. En cas de cardiopathie, on utilisera soit l'amiodarone, soit dronedarone, soit sotalol, en fonction des différentes étiologies sous-jacentes. Et au même niveau que l'amiodarone vient l'ablation de la fibrillation auriculaire. Encore une fois, on ne parle pas de toutes les fibrillations auriculaires, on parle des gens qui sont symptomatiques et chez les patients prévenus des risques également du type de procédure. Et comme je vous mets juste après, du fait qu'il faille parfois, surtout dans les fibrillations auriculaires persistantes et permanentes, plusieurs procédures pour obtenir un résultat. Les risques, on est à gauche, donc les embolies systémiques, c'est fort heureusement rarissime, c'est de l'ordre de 1 pour 1000. Sauf que si vous collez un AVC pendant une procédure, c'est quand même bien embêtant pour le patient. Donc le patient doit être informé, même si c'est rarissime. Et les patients ont systématiquement une échographie transœsophagienne avant pour s'assurer de l'absence de thrombus, le risque de tamponade, de sténose éventuellement des veines pulmonaires. Les succès, alors, les FA paroxystiques à un an, c'est 80-85%, certaines séries 90% de succès à un an. On a fait une étude récente à 5 ans, regardant à 5 ans, c'est plutôt de l'ordre de 63%, toutes fibrillations auriculaires confondues. En sachant qu'encore une fois, les fibrillations auriculaires paroxystiques ont un meilleur devenir et des meilleurs résultats que les fibrillations auriculaires persistantes et permanentes. Dans ces fibrillations qui durent longtemps, il faut souvent une deuxième, parfois une troisième procédure. Et le but, c'est quand même, quand on peut arrêter les anticoagulants, mais ils les garderont, de toute façon, ils ont les anticoagulants AVK au moins un mois avant et au minimum trois mois après la procédure. Ça, c'est important que les gens le sachent aussi, et souvent un peu plus après la procédure. Voilà. Alors ensuite, des choses nouvelles, parce qu'on me demandait des nouveautés également, les tachycardies ventriculaires. Alors, on se sert de plus en plus en cardiologie de l'imagerie, et en particulier de l'IRM. Ça, c'est un patient de Jean-Benoît Tambeau avec tétralogie de Fallot. Donc ça, ce sont les images IRM reconstruites. Tout ce qui est bleu, c'est normal. Ça passe bleu, oui. Ça passe bleu. Donc tout ce qui est bleu est normal. Tout ce qui est jaune est de la cicatrice. Je ne sais pas si vous savez, mais les tachycardies ventriculaires surviennent souvent sur des cicatrices, que ce soit d'infarctus, la cicatrice de l'infarctus lui-même, ou d'intervention chirurgicale, ou dans les cardiopathies dilatées, même idiopathiques, il y a souvent des cicatrices dans le muscle. Et l'identification de ces zones nous permet de repérer les zones à traiter. Et ça, ce sont des systèmes, nous, de navigation qu'on recrée avec nos cathéters. On est capable de recréer la forme lorsqu'on intervient en codant, et les codages couleurs représentent la viabilité, enfin, l'activité électrique des tissus. On peut également recréer l'activation, mais là en l'occurrence c'est l'activité électrique, et vous voyez assez bien dans les mêmes vues que sur le même patient, ça correspond assez bien à ce qu'on trouve à l'IRM. Donc ça, c'est des outils supplémentaires qui peuvent nous aider à identifier les zones malades et les zones donc à traiter. Et même on peut faire mieux, c'est-à-dire qu'on peut mettre les images de l'IRM sur nos systèmes, ce qui permet de vraiment fusionner les deux informations. Et donc ça, c'est la cicatrice vue à l'IRM et en codage couleur. Et on voit en dessous, c'était anormal aussi, ce qu'on retrouve nous en vrai, en réel, pendant qu'on fait notre procédure. Et donc ça va nous permettre de cibler les zones à traiter. Alors on peut aussi, en activation, là le patient est en tachycardie ventriculaire avec un énorme anévrisme inférieur, et on a des cathéters multipolaires avec plein d'électrodes qui nous permettent de reconstruire, et en 12 secondes on fait 70 points, ce qui permet de reconstruire la majorité de la zone critique de la tachycardie ventriculaire, et comme ça on va savoir où aller brûler plus facilement et plus rapidement. Donc voilà, c'est simplement pour montrer un peu ce qui se fait. Et dernière chose, on va de plus en plus maintenant sur le versant épicardique, car les cicatrices ne sont pas simplement dans l'endocarde, c'est-à-dire qu'on monte par les veines ou les artères et on arrive dans l'endocarde, mais nos outils actuels ne permettent pas de faire des brûlures transmurales, les muscles ventriculaires sont trop épais, et si ça se passe que sur le versant épicardique, on ne peut pas, parfois pas les atteindre, donc on va monter des sondes par voie épicardique, percutanée, D'accord ? En faisant une ponction sous-xiphoïdienne. Et ce qui nous permet, et particulièrement dans les séquelles de myocardite, d'aller mettre nos cathéters dans le péricarde et d'aller retrouver ces zones. Là, c'est un patient qui avait des TV récidivantes. Et si on regarde l'intérieur du cœur, tout était normal. On n'était pas capable de rien voir. Et sur le versant péricardique, il y a cette zone bleue qui était complètement malade, avec électriquement des zones très anormales qui était le substrat de sa tachycardie. En enlevant toutes ces zones, et ça a permis de le guérir et qu'il ne fasse plus du tout d'arythmie ventriculaire et qu'il arrête de se prendre des chocs avec son défibrillateur. Donc voilà, les indications, ce sont les TV bien sûr récidivantes, voire les TV symptomatiques sur cœur sain, parce qu'on peut aussi avoir de la tachycardie ventriculaire avec un cœur normal. Les risques, bah, tout dépend de d'où on est, mais éventuellement tamponade, embolie systémique également, qui sont fort heureusement rares également. Donc en conclusion, la technique arrive à maturité, même certains protocoles, en particulier dans la fibrillation auriculaire, on ne sait pas encore exactement quelle technique il vaut mieux, mais ça c'est, je dirais, de la cuisine interne. Mais en tout cas, le matériel devient vraiment performant et on peut faire en routine les tachycardies jonctionnelles, les Wolf, les flutters communs, c'est des choses qui sont vraiment rentrées dans le domaine commun, que de plus en plus de centres font en périphérie également. La fibrillation auriculaire, ça reste encore en développement, surtout pour le schéma qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut faire que les veines? Est-ce qu'il faut faire les veines plus des lignes, de la défragmentation? J'en ai pas parlé, mais des choses un peu plus poussées. La TV sur cœur sain, sur cardiopathie, en complément d'un défibrillateur lors de cardiopathie. Le problème du défibrillateur, c'est que ça permet d'éviter de mourir, mais ça n'évite pas la tachycardie ventriculaire. Et des patients, je ne sais pas si vous aimez, mais qui prennent des chocs itératifs, la qualité de vie est très altérée et surtout, les gens disent, je ne peux pas vivre en prenant des chocs tous les jours, quoi. Donc, chez ces patients-là, il faut bien sûr traiter leur tachycardie ventriculaire. Et quand les médicaments ne sont pas efficaces, et bien, donc, on a la possibilité de faire ces ablations. Et j'en ai pas du tout parlé, mais on peut certaines fibrillations ventriculaires sur cœur sain, en ablatant l'origine de ces fibrillations ventriculaires, on peut également permettre d'empêcher les chocs du défibrillateur et donc d'améliorer très nettement la qualité de vie de ces patients. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis si vous avez des questions. Donc pour aller à l'ablation, donc paroxystique par définition c'est moins de 7 jours, d'accord ? C'est des épisodes qui durent moins de 7 jours dans les définitions officielles, d'accord ? Ça c'est la paroxystique. Et alors récidivante, c'est variable. En tout cas pour aller à l'ablation, c'est des gens qu'on a minimum tous les mois et plutôt toutes les semaines, quoi. Après, c'est vraiment une discussion avec le patient, c'est-à-dire qu'on lui explique... On lui explique les tenants, aboutissants, ce qu'est la procédure, les risques éventuels, et puis il faut qu'ils soient très gênés surtout. Enfin, les symptômes sont vraiment prépondérants, et typiquement les gens qu'on voit, ils en font toutes les semaines, quoi, des fibrillations atriales, malgré les traitements, quoi. Alors, ça, on sait très bien, maintenant, il y a des études là-dessus, elles se referment en 15 jours, 3 semaines, il n'y a plus de communication. Et c'est pas une communication, enfin, par rapport à une communication, c'est minime, hein, ça fait 2-3 millimètres à peine, quoi. Donc c'est vraiment des minimes. Et ça, maintenant, depuis le temps qu'on en fait, on a vraiment un recul. Et en 15 jours, 3 semaines, c'est fermé. Oui, donc là, on est dans les fibrillations auriculaires persistantes, hein, puisqu'ils ont été réduits par choc électrique. Oui, à la condition, encore une fois, qu'ils soient vraiment symptomatiques. Ça, j'insiste là-dessus, hein, c'est important dans les recommandations, il faut que ce soit des gens symptomatiques. Et alors, par contre, il ne faut pas qu'ils aient une fibrillation par an ou tous les 2 ans, quoi. Non, parce qu'il y en a, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont un choc, ça a tenu 2 ans, et puis ils vont refaire une fibrillation. Cela, pour l'instant, on n'est pas très bon encore. Et ils n'en ont pas suffisamment, il me semble, pour prendre les risques aussi de la procédure. Donc, ces patients-là, ce n'est pas terrible, sauf si, à chaque fois qu'ils sont en fibrillation, ils dégradent leur fonction ventriculaire gauche, qui passe à 30%, enfin, qu'ils ont une tachycardiomyopathie, quoi. Mais sinon, non, il faut qu'ils aient des crises quand même assez fréquentes.
Bonjour à tout le monde. Alors, deux petites choses d'abord avant de commencer. On est là pour parler un petit peu de nouveautés, d'évolution sur les 10 dernières années. Et j'ai envie de dire, bon, là, le sujet c'était la cardiologie interventionnelle, mais on est pile dans un domaine en ce qui concerne la cardiologie pédiatrique, j'aime pas vraiment ce mot, puisque aujourd'hui c'est plus du tout de la pédiatrie qu'on fait, c'est ce qu'on appelle une nouvelle discipline, c'est plutôt de la cardiologie congénitale, où on va traiter des patients, que ce soit des nouveau-nés, même ça commence dès la période fœtale, des enfants, des adolescents, voire des adultes aujourd'hui, qui ont des malformations cardiaques. C'est une discipline qui est complètement nouvelle, c'est une discipline qui s'est développée, C'est une discipline qui nécessite des collaborations et des interpénétrations entre les services et les équipes qui sont absolument très importantes. Frédéric a montré tout à l'heure effectivement ce que c'était que de traiter des patients opérés de cardiopathie congénitale dans l'enfance, plutôt d'âge adulte en rythmologie, puisque c'est effectivement, quand on regarde les chiffres, c'est des patients qui vont avoir des taux de mortalité qui sont absolument très importants, puisqu'on a chez des phallos opérés après 40 ans des incidences en termes d'arythmie ventriculaire grave qui peuvent aller jusqu'à 30%. Donc c'est quelque chose de très très important. Et il est bien évident que toute cette discipline-là, elle évolue. Donc si on veut regarder qu'est-ce qui peut se passer de neuf depuis ces 10 dernières années, j'ai envie de dire la discipline en elle-même. Et j'ai envie de dire qu'on est obligé à tous les niveaux de mettre des choses en place. Donc à Bordeaux, on a cette chance au CHU de Bordeaux d'avoir un des services qui gère ce type de situation. Mais ça représente aussi bien l'interventionnel que la chirurgie, que l'éducation thérapeutique. On a mis par exemple en place la première unité de la syncope de l'enfant sur Bordeaux. Donc ça, c'est pour gérer effectivement une demande qui est extrêmement importante. De l'éducation thérapeutique, nous aussi on est amené bien évidemment à faire de l'éducation thérapeutique, mais dans un domaine qui est très particulier, que ce soit les anticoagulants chez l'enfant, que ce soit la prise de médicaments chez l'enfant, que ce soit la gestion de la grossesse chez des patientes qui vont avoir une cardiopathie congénitale. Tous ces éléments-là, c'est des choses qu'on est obligé de développer au sein de notre service qui devient véritablement quelque chose d'assez tentaculaire. Donc ça, c'est la discipline qui a évolué. J'ai envie de dire l'organisation. L'organisation également a énormément changé, puisque aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'un service, que ce soit un service de pédiatrie ou de cardiologie, je crois que ça, c'est complètement dépassé à ce jour, puisse gérer ce type de pathologie, ce spectre de maladies. Donc il faut une gestion multidisciplinaire, c'est des mots qui sont à la mode, mais je crois que c'est probablement le domaine, en tout cas en cardiologie, où ça s'opère à plein, en réseau, et là je crois que tout le monde a son importance, que ce soit sur le terrain, mais aussi au niveau de l'hôpital, on l'a un petit peu vu tout à l'heure, avec des ultra-spécialisations ou spécificités, ça je vais vous le montrer dans la cardiologie interventionnelle, et bien évidemment qu'on ait une croisée, et là je pourrais aller beaucoup plus loin, entre le cardiologue, le réanimateur, mais tout véritablement cet aspect tentaculaire qu'on a été obligé de mettre en place et qu'on a véritablement mis en place depuis 6 ans maintenant sur l'hôpital, le CHU de Bordeaux. Donc, qu'est-ce qui est important avant d'en arriver précisément à la cardiologie interventionnelle? Je crois que les éléments aujourd'hui, il faut considérer qu'en France, on diminue de plus en plus les centres qui sont à même de prendre ces pathologies en charge pour la simple et bonne raison que ça demande une infrastructure absolument colossale et très lourde, et que les résultats sont là aussi à la hauteur des espérances, puisqu'on arrive maintenant à avoir des taux de, en ce qui concerne par exemple la chirurgie pédiatrique, des taux de réussite qui sont environ, ça c'est les chiffres de l'année dernière sur Bordeaux, de 98,2% de succès de prise en charge. C'est une mortalité qu'on va regarder sur les 10 dernières années qui a chuté de presque 10%. Enfin, 10 fois. On était à 16% il y a à peu près 10 ans. Et aujourd'hui, on est arrivé à des taux qui sont bien évidemment bien parfois meilleurs que la chirurgie du pontage coronarien ou la chirurgie de remplacement valvulaire. Aujourd'hui, pour finir sur ces généralités, il n'y a plus de pathologies cardiaques pédiatriques qui ne peuvent pas être opérées. On peut tout opérer. Après, ça pose des problèmes d'éthique qui sont autres, mais tout est opérable avec des résultats qui sont même dans les choses les pires, qui sont l'hypoplasie du cœur gauche, où on a des résultats d'après à plus de 80%. Quand justement on arrive sur des équipes qui sont bien évidemment avec un gros volume de prise en charge. Donc tout ça, c'est pas une discipline qui l'a fait, c'est cette interpénétration des disciplines et des prises en charge qui nous ont amené à faire ça. Donc le cathétérisme, c'est exactement la même chose. Je crois que pour véritablement pouvoir faire du cathétérisme en pédiatrie, mais chez l'adulte, en congénital, il faut bien évidemment une organisation. Donc l'organisation de Bordeaux, ben, c'est les travaux qui ont eu lieu maintenant, il doit y avoir 3 ans de ça, où on a mis en place une unité de soins intensifs pédiatriques, où là il y a plutôt, on va dire, un monde de pédiatres, de cardiologues qui gèrent ce type de patients. Unité de réanimation qui va être juste à côté, et à côté il y a les blocs opératoires qui vont être d'un côté et les salles de cathétérisme et d'électrophysiologie qui sont de l'autre. Je crois que ça c'est véritablement des choses qui sont absolument indispensables aujourd'hui pour pouvoir travailler. Donc le cathétérisme en général maintenant, puisque qu'est-ce qui a changé en disant ça? Bien, ça a beaucoup changé. Le premier élément, c'est que c'est de moins en moins de diagnostics. On a tous connu, il y a une dizaine d'années, le cathétérisme diagnostique chez l'enfant, où les enfants qui étaient hospitalisés à Bordeaux, ils avaient une dizaine de cathétérismes, ensuite opératoire ou un cathétérisme tous les 6 mois ou tous les 10 mois pour arriver à visualiser. J'ai envie de dire ça aujourd'hui, c'est complètement terminé. Le cathétérisme, il est maintenant à 80% interventionnel, c'est-à-dire que quand on met un enfant ou un adolescent sur une table de cathétérisme, c'est pour faire, dans la majorité des cas, un geste particulier. L'objectif, c'est d'éviter une chirurgie ou une réintervention. Et bien évidemment, ça a pu se développer parce qu'il y a du matériel extrêmement spécifique qui s'est développé, qui s'est miniaturisé, avec qui a diminué les beaucoup de complications. Il y a une learning curve qui est bien évidemment extrêmement importante. Je crois qu'aujourd'hui, pour faire un cathétérisme pédiatrique congénital, il faut quelques années et beaucoup de compagnonnage et de visites à droite et à gauche. Il faut un équipement qui va être équilibré, il faut bien évidemment une salle, et il faut une salle biplan aujourd'hui pour diminuer bien évidemment l'irradiation chez l'enfant, parce que ça c'est un problème qui commence à arriver. Tous ces enfants qui ont été multi-irradiés dans l'enfance, il y en a certains qui développent des néoplasies, et ça il y a des travaux là-dessus. Donc aujourd'hui on n'a pas le droit d'équiper un hôpital qui veut gérer ce type de choses avec des machines qui irradient trop, et le biplan bien évidemment va permettre de diminuer la quantité d'iode injectée chez ces types de patients, et l'équipement bien évidemment multidisciplinaire. J'ai envie de dire, il n'y a plus de limite de poids aujourd'hui, puisqu'on peut très bien être amené à cathétériser des enfants de 1,5 kg dans certaines situations pour par exemple faire des interventions de Rashkin, ou aller ouvrir une cloison interauriculaire chez un enfant, ou dilater une valve chez un enfant. Le poids idéal, j'ai envie de dire, c'est dépend de la procédure et du matériel que l'on va avoir à utiliser. Et je crois que ça, c'est vraiment la limite que l'on peut se fixer. Et on arrive de plus en plus à avoir des approches étape par étape, marche par marche, où on va essayer parfois d'avancer pour apporter une solution au patient. Donc on va du plus simple au plus compliqué. Le plus compliqué, c'est un peu ce qu'on voit maintenant apparaître un petit peu partout dans l'hybride, la stratégie mixte, où finalement on associe au sein d'une même structure ou d'une même salle de la chirurgie du cathétérisme interventionnel. Et ça, bien évidemment, c'est des choses qui se développent avant tout dans la gestion pédiatrique et dans la gestion du tout petit, quand on regarde les équipes qui travaillent là-dessus. Si on veut dire les grands tournants depuis 10 ans, si je veux être assez synthétique, je pourrais dire qu'il y en a véritablement 3. C'est l'utilisation du nitinol, c'est le stent dilatable et la valvulation percutanée. Et j'ai envie de dire, ces 3 nouveautés aujourd'hui, c'est en cardiopédiatrie qu'elles ont été mises en place et qu'elles ont été initiées au départ. Le nitinol, c'est Kurt Amplatz qui l'a développé en 97 avec la première prothèse de fermeture de communication interauriculaire. Le nitinol, c'est le métal dont vous parlez, Pierre Dos Santos, tout à l'heure, qui est utilisé par Medtronic pour faire sa core valve. C'est le métal qui est utilisé aujourd'hui par toutes les sociétés qui veulent faire de la valve chez l'adulte. C'est un métal à mémoire de forme, c'est un alliage de nickel et de platine qui a véritablement cette capacité de garder la mémoire et de s'auto-épandre ou de se redéployer de la manière dont elle a été préformée. C'est quelque chose qui arrive de l'industrie de guerre américaine, hein, qui a été ensuite très vite utilisée. Et c'est des petites sociétés comme ça qui l'ont mis au goût du jour. Le stent dilatable, on va en parler rapidement. Et la valvulation percutanée. Chez l'adulte, on vous a montré que la valvulation aortique, elle datait de 2 ans. Mais la première valvulation percutanée a été faite chez un enfant. C'était en 2000 à l'hôpital Necker à Paris par Philippe Bonhoeffer. Et on va dire que les évolutions après chez l'adulte aujourd'hui sont probablement là aussi des extensions de ce qui a été fait en premier chez l'enfant. Donc les applications classiques, elles sont toutes celles-là. Ça, on va dire, c'est la routine du cathétériseur aujourd'hui. Fermer des CIA, des canaux, des valves pulmonaires, on va avancer là-dessus. La communication interauriculaire. Vous savez tous qu'il y a 3 types de CIA. La CIA ostium secondum, qui est véritablement située ici en plein milieu du septum au niveau de la fosse ovale. L'ostium primum et le sinus venosus. Pour être très rapide, l'ostium primum et le sinus venosus sont des indications de chirurgie cardiaque pour la fermer. La CIA ostium secondum aujourd'hui est fermée à 98% par des techniques de cathétérisme interventionnel chez l'enfant. Le poids idéal est un poids de 20 kg, mais on peut bien évidemment descendre bien évidemment en dessous de ça, et avec des résultats qui sont absolument très importants. L'histoire de la CIA, je vous l'ai remis là sur cette diapositive, et on voit véritablement, c'est en 97, Kurt Amplatz qui a mis sa première prothèse de CIA chez cet enfant. C'est la première fois que le nitinol est utilisé comme matériel de prothèse, et aujourd'hui c'est véritablement des choses qui se développent à tout va. Comment faire une CIA? D'abord, il faut la mesurer au ballon. Ensuite, on déploie la prothèse sur un guide. Je vais vite. Et on peut aussi mettre parfois plusieurs prothèses, comme c'est visualisé sur cette diapositive-là. C'est une procédure qui dure à peu près entre 20 et 25 minutes, qui se fait sous anesthésie générale et sous échographie transœsophagien, ce qui permet là aussi, mais avec la diminution de la taille des sondes de TO, on arrive aussi à le faire sur des tout petits poids. Le canal artériel, ça aussi, c'est quelque chose d'assez commun. Donc là, vous avez une pictelle de 4 French, donc c'est vraiment du petit matériel que l'on utilise, qui est mis dans l'aorte par voie artérielle fémorale. On voit le canal artériel qui va vasculariser ici le tronc de l'artère pulmonaire. Et là, bien évidemment, il y a deux solutions. Soit on utilise une prothèse d'emplâtre, là aussi c'est du nitinol de première génération qu'on va mettre par le bout, de voie rétrograde par l'artère pulmonaire. Ou alors autre option, c'est d'utiliser des nouvelles prothèses qui sont aujourd'hui toujours des prothèses d'emplâtre, mais de deuxième génération, qui se passent dans du matériel qui est beaucoup plus petit, et qu'on peut positionner là par voie aortique. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment la possibilité de fermer tout ce type d'intervention. Le stent aortique, là c'est le cas d'un jeune homme qui avait une cohortation de l'aorte native. Vous avez probablement appris, et moi aussi, qu'une cohortation de l'aorte, il fallait l'opérer. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait la réalité. On arrive à stenter les cohortations natives, que ce soit chez l'adulte, puisqu'on a des diagnostics de cohortation chez l'adulte. Et je vous rappelle qu'une hypertension artérielle asymétrique doit faire bien évidemment déjà rechercher une asymétrie au bas quand on a une hypertension artérielle. Et quand il y a une asymétrie au bas, il faut bien évidemment penser à une cohortation, qui est des choses qui sont encore découvertes assez fréquemment aujourd'hui. Donc au début, on était chez l'adulte. Aujourd'hui, on arrive à se positionner des types de stents de ce type-là chez l'enfant. À partir de 25 kilos, on arrive à aller stenter les enfants, en sachant là aussi qu'il faudra aller revenir plus tard pour redilater le stent. Un enfant de 20 kilos, on arrive à lui mettre un stent d'à peu près de 12 mm. Et on considère qu'une aorte d'adulte, pour qu'elle soit on va dire la bonne taille, il faut qu'on puisse au moins la mettre à 18 mm. Donc ça veut dire que 12 mm, on va le redilater probablement une fois quand il sera à l'adolescence pour arriver à déployer le stent à la bonne taille. Donc là, vous avez la cohortation qui est visualisée ici. Je ne sais pas si les images sont bonnes. Et là, c'est le déploiement du stent. Alors on a des stents soit qui sont couverts, qu'on va utiliser quand la sténose est très serrée, parce qu'il y a toujours un risque de dissection, soit des stents qui sont nus, comme on dit. On utilise souvent des ballons, des doubles ballons, donc c'est pour ça que le stent se déploie en deux temps. Et là, on voit effectivement le résultat. Et sur ce type de procédure, on se retrouve souvent avec un gradient entre le haut et le bas, qui est aux environs de entre 1 et 2 mm de mercure. Donc les urgences néonatales, là je vous ai montré une cohortation de néonatale chez l'enfant que vous voyez en échographie. On voit ici la crosse de l'aorte avec la cohortation qui est ici. En G couleur, on voit bien évidemment là ici l'accélération sur l'isthme. Donc c'est un enfant qui est mis sous prostine dès la naissance, qui est un médicament qui va maintenir le canal artériel ouvert, c'est-à-dire maintenir une circulation fœtale permanente, qui a été opéré à 2 kg, qui sort à J15 et qui revient 6 semaines plus tard, et comme c'est souvent le cas sur ces chirurgies de cohortation, qui redéveloppe ici une cohortation sur la zone opérée. Vous voyez ici le cathéter, la taille du rétrécissement et de la taille du cathéter, donc ça fait à peu près 1 mm 2, 1 mm 3. Donc ça c'est des choses qu'on a assez fréquemment. Sauf que maintenant qu'on a ça, on redilate aussitôt, même si la suture est très fraîche, et on se retrouve souvent avec des résultats qui sont absolument remarquables. Et ça, cet enfant, il avait été recathétérisé 3 mois plus tard. Alors on voit qu'il y a effectivement une toute petite encoche ici au niveau de la zone qui avait été dilatée. Mais en fait, on vient rompre de la fibrose qui s'est constituée sur la zone de cicatrice. Et en fait, après, l'aorte arrive à pousser tout à fait normalement. Donc ça, c'est des choses qui marchent bien. Ça, c'est un autre enfant. Il y avait exactement la même chose. On voit ici le rétrécissement sur le patch juste au pied de la sous-clavière gauche. On voit ici, c'est assez serré. Et après la dilatation, on va avancer un tout petit peu. Voilà, on la dilate encore là aussi au ballonnet. Et on se retrouve à retrouver une zone ici qui a été réouverte à 3 fois la taille de la sténose et surtout une disparition totale de gradient. Cet enfant, il a été fait la semaine dernière. Donc il avait un gradient qui était à 45 mm de pic à pic entre le haut et le bas de la rétrécissement. Et après la procédure, on ne retrouvait plus du tout de gradient. Donc c'est des résultats qui sont absolument excellents. Les enfants rentrent à la maison 2 jours après ce type de procédure et c'est des choses qui se passent très très bien. Donc les stenting, bien évidemment, on peut les faire sur l'aorte, mais on peut aussi les faire sur les artères pulmonaires. Donc là, je vous montre l'histoire d'un enfant qui a été opéré à multiples reprises, qui avait eu un blaloc à droite, un blaloc à gauche. et qui, bien évidemment, comme souvent, garde une cicatrice au niveau de l'artère pulmonaire gauche, avec, on le voit sur cette image-là, si elle peut repartir, une artère pulmonaire droite qui est très développée et une artère pulmonaire gauche qui est véritablement toute petite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est amené à injecter juste sur le site et d'aller amener un stent sur cette zone-là. Donc ça, c'est des stents quand ils sont redilatables, c'est des équivalents de nitinol, mais qui a un peu évolué aujourd'hui, c'est plus du platine parce que c'est beaucoup plus rigide. Et ce stent-là qui fait 10 mm de diamètre, on va pouvoir le répandre par la suite jusqu'à un diamètre de 22 mm. Là aussi, une artère pulmonaire adulte, elle est aux environs entre 14 et 18 mm. Donc en deux coups de ballon, c'est-à-dire qu'on va lui probablement éviter des chirurgies qui sont relativement lourdes. Les stratégies mixtes, ça c'est un cas qui est extrêmement compliqué. Vous voyez, on injecte le ventricule gauche, on se retrouve avec des CIV multiples en gruyère sur tout le septum. C'est des situations qui sont toujours compliquées. Alors, c'est un enfant qui n'avait pas de problème particulier parce qu'il avait une sténose pulmonaire, qu'on va voir ici. Hein, il y avait un obstacle ici au niveau du tronc de l'artère pulmonaire, donc qui était à peu près bien équilibré. Soit on rentrait sur une chirurgie qui était relativement lourde parce que finalement c'était un enfant qui avait déjà été opéré en amont. Soit on décidait d'essayer d'aller fermer quelques trous, donc c'est ce qu'on a fait. Alors, je vais passer très rapidement, mais là on voit effectivement, je ne sais pas si on y voit bien. On voit ici sur cette image-là qu'on met une première prothèse sur le septum qui est positionnée là. On refait un test de contrôle, on voit que ça passe moins, mais ça continue à passer. Et donc on a été ramené une deuxième prothèse sur le septum interventriculaire. Voilà, il y a encore bien évidemment le shunt qui est en dessous qu'on voit là. Et il y a une deuxième prothèse qui est positionnée ici. Hop, à cet endroit-là, et il reste quelques petits shunts, mais on a réussi à diminuer le passage du shunt sur ce septum en gruyère qui était une des complications et une des contre-indications à beaucoup de chirurgie par la suite. Assez simplement, je vous dis, c'est des enfants qui regagnent leur domicile deux jours après ce type de procédure. Alors que s'ils avaient dû être opérés, c'est des choses qui auraient duré des mois en hospitalisation. La valve percutanée pulmonaire, c'est celle-là, c'est la valve Mélodie. Donc première implantation en 2000 par Philippe Bonhoeffer à Paris. À Bordeaux, première implantation, puisqu'on a été le troisième centre en France à mettre ce type de prothèse. Ça a été fait en septembre 2009. Les indications, ben, c'est des patients multiopérés, pas de voie native. Il faut que ce soit des patients qui aient déjà un tube ou un conduit prothétique sur le ventre droit. C'est beaucoup plus archaïque que ce qui se fait chez l'adulte et sur la valve aortique, puisque c'est un stent qu'on doit aller cripper soi-même sur le ballon, donc il y a une technique pour aller l'accrocher, mais finalement ça marche très très bien. Pierre Dos Santos vous disait tout à l'heure que le prix d'une valve aortique chez l'adulte c'était 18 000 euros, ce type de procédure coûte 27 000 euros, bien évidemment le dispositif, mais on va dire que ce n'est pas tout à fait les mêmes indications, puisque c'est chez des enfants qui ont déjà été opérés au moins une fois et parfois deux fois, et pour lesquels on va probablement éviter deux voire trois réinterventions avec des résultats qui sont toujours excellents. Donc ça c'est le premier patient qu'on avait fait en 2009. Donc on voyait, c'est des enfants qui ont été opérés avec des séquelles de Blalock sur la branche ici, une artère pulmonaire développée avec une fuite massive, une sténose massive, un ventricule qui est toujours fatigué. Vous voyez la fuite pulmonaire qui est vraiment colossale. Et donc, on met toujours un premier stent, parce que nous, on pré-stente les voies ventricule droit, artère pulmonaire. Donc, on met un premier stent. C'est pas suffisant, puisqu'il y a toujours un obstacle, donc on vient mettre un deuxième stent. Et ensuite, on vient mettre à l'intérieur du stent la valve. Ça, c'est la valve qui est en train d'être déployée ici. Toujours pareil, sur un double ballon. Donc, le stent vient se déployer à l'intérieur. Et ensuite, après, on peut les regonfler pour essayer de supprimer ce type d'encoche qui est ici. Et les résultats, là aussi, sont bons, puisqu'on se retrouve avec des gradients qui sont souvent inférieurs à 10 mm de mercure, donc quasiment pas, et une absence totale de fuite, comme vous allez le voir, sur le contrôle angiographique. Donc ça, c'était avant. Et quand on regarde après, on voit qu'il n'y a absolument aucune fuite résiduelle sur ce type de conduit. Ça, c'est les choses maintenant qu'on est amené, puisque les techniques évoluent. Donc, c'est un enfant qui a été opéré d'une intervention d'un ami Fontan. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, il y a un cœur avec un seul ventricule pour lequel on a mis la veine cave supérieure directement sur les artères pulmonaires et qui, suite à ce type d'intervention, fait des épanchements pleuraux à répétition, des chylothorax à répétition, qui a passé un mois en réanimation. Donc finalement, l'ami au cathétérisme pour comprendre et essayer peut-être d'avancer, essayer de voir s'il n'y a pas d'obstacle particulier. Donc là, on injecte dans la veine cave supérieure qui est connectée directement sur les artères pulmonaires. Donc vous voyez ici l'artère pulmonaire droite qui part, l'artère pulmonaire gauche qui part de l'autre côté. On va attendre l'injection. Voilà. Donc l'artère pulmonaire droite ici, l'artère pulmonaire gauche. Et là, on voit une veine cave supérieure gauche qui s'est redéveloppée parce qu'il y a une hyperpression dans tout le montage supérieur. Ce qui occasionne, bien évidemment, vous voyez ici le poumon qui est complètement, avec un épanchement majeur ici. Ça, c'est le poumon qui est complètement écrasé par l'épanchement. Donc on est allé injecter à travers la voie entérograde ici, et quand on le voit sur le profil, on voit qu'il y a effectivement le cerclage qui avait été mis par le chirurgien, et sur la courbe de pression, on regarde qu'effectivement il y a dans le montage et dans les artères un flux qui est encore pulsé. Donc on s'est dit que c'était probablement cette pression moyenne à 17 dans les artères pulmonaires qui occasionnait l'hyperpression et les épanchements au niveau du canal thoracique. Donc on fait un test d'occlusion au ballon pour voir la voie entégrade. Et on a fait, on a essayé, ce qui a relativement bien marché, de mettre un bouchon dans le tronc de l'artère pulmonaire, qui a bouché donc tout le tronc de l'artère pulmonaire, et on se retrouve en post-procédure immédiate sur les pressions, en tout cas, je vais vous le montrer, à une pression qui est là plus du tout pulsée, avec une pression moyenne aux environs de 8 mm de mercure, donc c'est un enfant qui a été extubé le lendemain de la procédure, et qui n'a plus d'épanchement aujourd'hui, qui va pouvoir regagner son domicile. Donc ça, c'est deux types de procédures qu'on est bien évidemment amené à faire de plus en plus. Après, il y a des cauchemars pour finir. Ça, c'est le cauchemar qu'on peut être amené à voir. Une enfant de 10 ans, situs inversus, ventricule unique, sténose pulmonaire, qui a eu plusieurs blocs, qui a eu une dérivation cavo-pulmonaire partielle, ce que je vous montrais, qui a eu une dérivation cavo-pulmonaire totale, ce qu'on appelle l'intervention de fond de temps modifiée, c'est ce que je vous ai représenté à côté. Une plastie de la valve auriculo-ventriculaire. Et puis qui ensuite à l'intervention avait des œdèmes pulmonaires lésionnels, chylothorax bilatéral, qui avait été listé en liste de greffe, mais vous savez qu'aujourd'hui le don de greffe chez l'enfant est extrêmement difficile à obtenir, et on a à peu près en France entre 4 et 5 transplantations par an maximum. C'est un enfant qui s'aggravait progressivement, donc on avait discuté une assistance, mais sur ce type de montage c'est extrêmement difficile à assister. Donc on s'est dit on va aller au cathétérisme. Le problème c'est que au cathétérisme, comme souvent chez ces enfants qui ont été visités au préalable, il y a des thromboses de tout le système d'abord inférieur. Donc on a recanalisé, malgré toute la thrombose fémorale, veineuse fémorale, on a recanalisé la veine, on est arrivé à remonter, et on s'est retrouvé sur un montage de fond de temps qui était, je ne sais pas si ça a marché, j'espère, voilà, sur un montage de fond de temps qui était quand même assez sténosé, avec une première sténose ici sur l'ostium de l'artère pulmonaire droite. Donc on a été, voilà, donc on a été stenté une première fois, donc on met un stent ici sur la naissance de l'artère pulmonaire droite. Donc toujours technique du double ballon, on déploie d'abord le stent une première fois et après on vient le déployer un petit peu plus. Le cathéter que vous voyez ici, c'est des cathéters pour les épanchements pleuro-bilatérales qu'elle avait à répétition. Aujourd'hui, c'est des cathéters un petit peu comme ça en queue de cochon qu'on arrive. Donc on se retrouve ensuite après sur ce système-là. On injecte et on voit qu'effectivement ici le LR, puisqu'il y avait un situs inversus, donc la veine cave supérieure était thrombosée au niveau du montage sur les artères pulmonaires. Donc à cela ne tienne, on est allé mettre un deuxième stent sur la zone au-dessus. Donc toujours pareil, technique du double ballon, on déploie d'abord le stent avec le premier ballon de diamètre inférieur au ballon d'après, et ensuite on vient déployer le stent sur la zone. Donc on a reperméabilisé tout son montage. C'est une jeune fille qui a été sortie de la liste de transplantation, qui a regagné son domicile, donc je vous montre parce que c'est un peu des situations assez exceptionnelle et qui va relativement bien avec un très beau résultat du stenting qui a donc dû être, on a dédrainé et qu'on suit régulièrement et qui va bien. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que En 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'en passe encore beaucoup tous les jours, avec des évolutions qui sont absolument galopantes, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de moyens, et que c'est des techniques qui évoluent, on va dire, au quotidien et tous les jours. Merci.
Bravo.